Hello.
C'est toujours Elkatou, je suis avec Nelson et Nio.
Yes. On est là.
Voilà. Nelson qui nous revient. On a essayé.
Yes.
On a enclenché un rythme avec Nelson qui soit là une fois sur deux, en fait. C'est ça.
Voilà, c'est ça.
C'est le poids des responsabilités, ça.
Voilà, je fais le maximum, mais c'est compliqué.
Voilà. Cette semaine, on va vous parler de cinq films. Alors, à l'heure où on enregistre, en fait, les Oscars sont tout à l'heure, dans cette nuit. Donc voilà. Et on n'a pas encore les résultats, tout ça, on ne sait pas ce qui s'est
Peut-être qu'on en
passé.
parlera la semaine prochaine un petit peu.
Bon, voilà, on verra. Ne serait-ce que pour dépiauter nos pronostics, voilà, on verra. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'ai bien une idée de ce que j'aimerais, mais après, parce que du coup, en fait, moi, je vais commencer à vous parler d'abord de Judas and the Black Messiah, qui est justement nommé pour le meilleur film. Ensuite, ce sera au tour de Neo, qui vous parlera de From Beyond de Stuart Gordon.
Tout à fait.
Et ensuite, Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone, ce sera avec Nelson, qui s'est
Yes.
fait une petite séance classique.
Yes.
Ensuite, je vous parlerai de Vampire Cop Rickey de Lee Si Myung. Ah oui, je vous ai pas dit en fait le. Ah mais non, je vous dirai après tout à l'heure. Et ensuite, ce sera Neo qui terminera avec Derrière nos écrans de fumée de Jeff Orlowski. Voilà, qui est un documentaire.
Tout à fait.
Parce que notre spécialiste des documentaires, c'est Neo.
Voilà, mais en ce moment, j'ai des docu, puis même Nelson, je pense qu'il est d'accord avec moi, il y a des trucs intéressants en ce moment, quoi. Ouais, carrément, carrément.
Ouais, mais alors pour le coup, le documentaire, j'aime bien le regarder, mais en parler après, dépiauter, moi, c'est moins mon truc d'en parler après. C'est pas, j'aime, par contre, c'est vrai que c'est sympa. Donc, je vais commencer avec Judas and the Black Messiah 2. Alors, attention, c'est là que j'ai eu ma super blague. Attention, ce n'est pas Chaka Khan, c'est Chaka King. Voilà.
C'est tellement mon reproche mes blagues.
Ouais, bah c'est pour ça, c'est vu tes blagues, je me suis dit que ça passerait crème, la mienne. Donc, alors, tout ça, c'est une blague, mais je reprends mes petits mains et mes petits anglais. Donc, film de Chaka King. Alors, lui, en fait, c'est pas. Alors, il débute pas, mais il a pas fait 40 longs métrages non plus. C'est-à-dire que c'est un gars, il a fait pas mal de courts métrages. Enfin, il fait quelques courts métrages. Il a travaillé un peu pour la télé. Enfin, surtout pour la télé après. Et il a juste deux longs métrages. Un qui s'appelle Newlyweds de 2013 et Judas and the Black Messiah. Et je pense qu'en fait, je pense après, bon, je vais en parler de la manière dont j'ai perçu le film, mais je pense que ça s'en ressent un peu dans son film, le fait qu'il ait fait beaucoup de télé et de courts-métrages au final, et que du coup, il n'y ait pas tant de longs-métrages que ça, quoi. Après, il y a des gens que ça marque plus que d'autres. Alors, non, c'est pas sûr, c'est pas ces notes-là. Donc, au casting de Judas and the Black Messiah, on a tout d'abord. Ah oui, non, j'ai pas dit de quoi ça parle. Non, parce que justement, c'est inspiré de faits réels. Et justement, c'est ce qui rend le truc super fort, en fait. Donc, ça se passe à la fin des années 60 à Chicago. Donc on a une petite frappe, un mec, un petit escroc qui s'appelle William O'Neill, qui se fait passer pour un agent fédéral pour voler des voitures. Mais genre ouais, il fait ça avec une espèce de fausse plaque qu'il a bricolée, voilà bon. Mais bon, il se fait intercepter par les vrais FBI en fait. À cette époque-là, il y a tout ce qui est mouvement des droits civiques pour les Nord-Américains. Et en fait, c'est le FBI qui lui est super sur les dents à cause de ça, parce que ils n'ont pas été toujours très très correct. Enfin, disons que le FBI avait souvent le nez sur les leaders des droits civiques. Donc, lui propose un marché, en fait. S'il accepte de collaborer avec le FBI comme informateur, en fait, les charges qui sont contrôlées sont abandonnées. Donc, on lui demande de faire le mec infiltré au sein des Black Panthers. Et il doit se rapprocher de Fred Hampton, qui est leader et qui est le mec hyper charismatique, ce qu'ils appellent un messie noir, quoi. Et c'est pour ça, en fait, le titre, c'est issu de c'est purement une métaphore de ce qui va être l'histoire. C'est-à-dire que lui va être Judas et faire avec le messie noir, en fait, duquel on l'a chargé de se rapprocher, en fait. Et en fait, du coup, bon, à un moment, on a J. Edgar Hoover qui apparaît brièvement, où du coup, on se rend compte que J. Edgar Hoover, il n'est pas très pour les droits civiques, tout ça. Bref, enfin, c'est ce qu'on sent dans les films, quoi. Je sais pas trop historiquement, mais bref. Après, au niveau de la prod du truc, on a Ryan Coogler. Et Ryan Coogler, c'est qui, me direz-vous?
On ne voit pas du tout.
C'est vrai?
Moi non plus.
Bon, bah, Ryan Coogler, en fait, c'est le mec qui a fait Black Panther. Donc,
Ah bon? Ah.
voilà, c'est le mec qui a fait Black Panther, en fait.
Je ne l'ai pas vu,
c'est très militant tout ça.
Oui, c'est très militant, mais justement, parce qu'on est, c'est purement un sujet d'actualité, quoi. C'est lui qui a fait, c'est lui qui a fait Creed, l'héritage de Rocky Balboa aussi. Il a
Ah
été
oui,
seulement,
ça,
il
par
a,
contre, ça me parle plus.
non, il a, il a juste été, sur Creed 2, il a juste été prod, hein, mais c'est lui qui était, donc c'est pour ça aussi, tu vois, on sent que c'est un mec qui aime bien avoir les acteurs avec qui il a bossé aussi, parce qu'en fait, il avait fait Creed, où on avait découvert Michael B. Jordan, enfin, il a fait Fruitvale Station, je crois qu'il était dedans aussi, mais je suis pas sûre, parce qu'il a fait Fruitvale Station, et du coup, en fait, Michael B. Jordan était aussi dans Black Panther aussi, du coup, et là, en fait, un acteur de Black Panther qui joue dedans, en fait, c'est Daniel Kaluuya, qui est un acteur anglais, qui joue le rôle justement du leader charismatique, en fait, qui joue le rôle de Fred Hampton, qui est à la base qui est absolument pas américain, qui est un acteur britannique, c'est ça, en fait, et je me dis, putain, t'es un acteur britannique, il faut que tu te mettes dans la peau d'un leader de mouvement de droits civiques nord-américain, et ça passe crème, il le fait très bien. Il le fait tellement bien que je crois qu'il a eu ouais il a eu un Golden Globes justement pour ce rôle-là, et il a eu aussi le Screen Actor Guild Award 2021. Donc, il le fait très très bien. Mais moi, ça me fait très bizarre de l'entendre sans son accent, en fait, sans son accent anglais. Mais parce qu'en fait, moi, je l'avais découvert dans une série qui s'appelait Psychoville. Mais d'ailleurs, en plus, je crois qu'à l'époque, en fait, il jouait pas très bien. Enfin, moi, j'avais pas l'impression qu'il jouait très bien. Et c'est une série complètement pétée, complètement purement à l'anglaise, tu vois, un truc comique purement à l'anglaise, mais pas avec les rires derrière et tout, mais complètement largué. Et genre, tu vois la différence entre Psychoville et là où il en est maintenant, tu te dis, wow, le gars, il a quand même bien parcouru, quand même.
Moi, j'avais découvert dans Get Out.
Oui, c'est le premier rôle de Get Out. Effectivement, donc voilà. Donc lui, il fait le leader charismatique. Et après, qui c'est qui fait la balance? Eh ben, c'est Lucky Stanfield. Et Lucky Stanfield, c'est qui, disiez-vous? Bon, Lucky Stanfield, il me semble qu'il était aussi dans Get Out, en fait. À un moment, t'as un personnage comment dire, ah, je saurais pas comment expliquer, mais il y a un personnage, on finit par comprendre, en fait, qui le regarde avec des yeux paniqués, qui a l'air très jeune, et on dit, ah, mais je crois que t'avais disparu et tout, enfin, il lui dit ça, et le personnage de Daniel Kaluuya, et en fait, il se rend compte que le mec était là. Et enfin, dans mon souvenir, c'était ça dans Get Out. Je me perds un peu, mais bon, bref. Il joue aussi dans Get Out, mais surtout, en fait, il jouait dans À couteau tiré, c'est lui qui fait le flic, un des deux flics dans À couteau tiré. Et attends, parce qu'il y avait un autre film. Ah oui, voilà, le film Sorry to Bother You, qui était passé au PIF, qui est
Yeah.
trop bien. Il joue dedans, en fait, c'est lui qui joue le rôle principal. C'est vraiment un des mecs du moment aussi, hein, là, qui s'est fait. Donc on est là sur deux acteurs, en fait, qui sont pile deux acteurs du moment, Daniel Kaluuya et Lucky Stanfield. Un autre acteur du moment qui joue dedans, c'est Jesse Plemons. Jesse Plemons qui bon, alors, je vais le faire. C'est le point people parce qu'on le fait tout le temps pour les meufs, c'est Monsieur Kirsten Dunst. Voilà. Donc on dit toujours c'est ben voilà. Donc voilà, c'est Monsieur Kirsten Dunst et en ce moment il marche très très bien en fait, on le voit partout. Genre j'avais vu passer un truc, ah là là, mais il y a pas un seul projet sans Jesse Plemons, c'est vrai que tu regardes direct, ah ben qu'est-ce qu'il fout encore là quoi. Je crois qu'il était dans le dernier attends que je vérifie. Il était dans The Irishman hein, oublié donc il a été dans Pentagon Papers aussi, puis il a été dans bon Le Pont des Espions. Et je crois que Spielberg l'aime bien visiblement. Et il a fait la saison de Fargo. C'est là qu'il a rencontré Kirsten Dunst d'ailleurs, la dernière saison de Fargo. Non, la dernière ou avant-dernière, je sais plus. Non, l'avant-dernière, pardon. La dernière justement, c'était il y a Chris Rock dans la dernière. Donc ouais, c'est je veux juste en finir. Qui est sorti l'an dernier sur Netflix, qui était le dernier Charlie Kaufman, voilà, dont j'avais parlé aussi, je crois, dans les premiers Ciné on the Fun. Donc voilà, c'est un mec qui est un peu partout sur les gros projets, voilà quoi. Et après, sur le reste du casting, bah il y a des. Ouais, alors la fille qui joue, moi j'avais l'impression. Alors attends, parce que du coup, je me souviens plus. Bref, j'ai pas pris le temps de vérifier, mais la nana qui joue la compagne de Fred Hampton, en fait, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, mais je pourrais pas, j'ai pas eu le temps de vérifier. Donc voilà, en gros, on est sur un casting qui est assez qui est pile solide et pile du moment. Le mec qui fait J. Edgar Hoover, c'est Martin Sheen. Hein. Voilà, mais avec plein de maquillage, et je me suis même demandé si c'est pas du numérique, parce qu'en fait, à un moment, il a l'œil vitreux, comme De Niro dans The Irishman quand ils essayent de le rajeunir.
Ah ouais.
Donc, je me suis demandé si le maquillage était pas numérique, quoi, s'il n'y avait pas des petits effets numériques. Donc voilà. Après, sur le film en lui-même, on est sur un film d'époque, en fait. Ben, à faire des tonnes avec des looks exagérés, la musique d'époque est là, mais juste quand il faut. Il n'y a pas non plus besoin de montrer, tu vois, qu'on connaît son ABC de la musique de cette époque, quoi. C'est pas, regardez, c'était trop bien, les 60, il y a un tel, machin, tout. On n'est pas sur du Tarantino, par exemple, tu vois, où il veut absolument montrer que sa BO est magnifique, voilà, quoi. Il y a une petite musique jazzy qui va ouvrir une scène au début et fermer le film, par exemple, en réapparaissant une petite fois, je crois, mais c'est voilà, on sent que c'est pour ponctuer des moments précis. Après, dans la manière de filmer également, c'est plus un peu plus empreint de modernité, j'ai l'impression, enfin de modernité classique quoi. On est voilà, par exemple, quand tu fais un plan séquence en caméra portée dès l'une des premières scènes, tu vois, dès le début, voilà, dans un ancien film ce serait pas trop ça quoi. L'usage du grand angle aussi, à un moment je me suis tilté, je me fais ça m'a fait il y a des plans, ça m'a fait bizarre de les voir en grand angle en fait, comme par exemple quand il filme un plan de voiture en fait en filmant le conducteur comme dans un clip finalement, tu vois. Après, heureusement que c'est jamais exagéré en fait. C'est plus académique et je pense que c'est pour ça en fait que c'est là que ça se voit en fait qu'il a pas fait tant de longs métrages que ça. C'est que on est sur des trucs où quand il fait ce genre de choses, c'est regardez, j'ai fait ça. C'est-à-dire que ça, on même si c'est pas hyper 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 too much. On sent encore c'est pas encore tout à fait fluide quand il le fait, c'est-à-dire que finalement il aurait pu faire autre chose à la place, c'est-à-dire que ça sent l'exercice plus qu'autre chose en fait.
D'accord.
Après, le Réa affectionne de filmer les gens, les visages. On sent que l'émotion, vraiment, pour lui, c'est hyper important. Il n'y a pas de démonstration de cinématographique, donc pas tellement de plans larges. Il fait juste le nécessaire, en fait, en plan large. On est sur un film qui se construit son idée petit à petit, quoi. La scène de l'attaque du siège des Black Panthers, par exemple, en fait, il y a aussi instaure une espèce de rupture avec la première partie. Et à partir de là, le rythme va petit à petit se ralentir. Vraiment, t'as des côtés un peu techniques comme ça, en fait, où et tu sens qu'il a pas fait les choses au hasard, quoi. Après, le rythme va se ralentir, mais ça sera quand même marqué par une ou deux petites scènes coup d'éclat quand même. Mais on sent quand même que ça se ralentit, quoi. La façon dont il filme les meurtres aussi, c'est pas filmé frontalement. C'est soit ils se sont passés dans le plan juste avant, soit c'est en flou en arrière-plan, en focalisant sur le visage au premier plan, ou alors c'est aussi filmé du point de vue de la victime, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on sent bien que l'idée, c'est vraiment de montrer l'émotion qui ont provoqué ces meurtres, ou montrer ce qui a mené à ce qu'ils arrivent, quoi, surtout. Après, ça a l'avantage de pouvoir avoir un film qui est tout public, hein, et du coup, de par son message, toucher plus de gens, quoi. Et en fait, un truc qui est un vrai plus pour le film, je pense, c'est le fait que le fils et la compagne, en fait, de Fred Hampton, donc sa compagne et Fred Hampton Jr., ont servi de conseiller sur le film. C'est-à-dire qu'en fait, la compagne qui a vécu ces événements, hein, son personnage, elle a accès à ce qu'il a joué, et ben, elle a conseillé sur ce film. Donc, en fait, je pense que c'est pour ça aussi que le film ne cherche pas à en faire trop. Mais juste à vraiment sur la description des trucs, quoi. Et voilà, on s'en tient vraiment aux choses essentielles, quoi. Et aux choses véridiques, sans forcément romantiser, sans forcément, tu vois, enfin voilà, sans forcément omettre des trucs. Enfin voilà, on est vraiment sur des trucs essentiels. Après, il y a aussi un autre truc intéressant, c'est sur le plan de la lutte. Parce que, outre le fait qu'il met en lumière les différents courants de mouvement des droits civiques, c'est-à-dire qu'il y a les Black Panthers, mais les Black Panthers, ils sont pas tout seuls. Il y a aussi les Crowns, il y a les Disciples, il y a les Stones. Voilà, on perçoit ça. Il démontre aussi, en fait, que la lutte, elle est sur le plan politique. Et le plan politique identifié comme socialisme, c'est-à-dire que Fred Hampton, il cite Che Guevara, il cite Mao, et son personnage, il tente de se rapprocher de d'autres communautés dans la lutte contre le capitalisme. Alors clairement, on te dit, voilà, notre lutte, c'est le capitalisme, en fait. Donc il s'agit pas, en fait, c'est l'histoire des droits civiques des Noirs dans cette optique-là, quoi, tu vois. Et c'est super intéressant de montrer ce panel-là, quoi. Après, sur la fin, il y a des films d'archives, en fait, qui nous font bien réaliser les enjeux de l'époque et qui démontrent bien aussi la volonté du film de coller à une vérité historique. Et un des trucs qui est flagrant à la fin, où on se dit, parce qu'on se dit le personnage de Lucky Stanfield qui joue le mec qui fait Judas, quoi, qui est censé s'infiltrer. On le sent qu'il bataille pendant tout le film avec finalement, tu vois, parce que lui, il est noir, mais il a pas tellement de conviction. Lui, c'est sa gueule, en fait, avant tout, qui compte. Et c'est pouvoir se sortir de pouvoir survivre et tout. Et en fait, tu sens bien à la fin que, parce qu'il y a le film d'archives, je spoil un peu, mais il y a un film, le film débute avec Lucky Stanfield qui fait ce personnage-là, qui est filmé. Et le film termine par le vrai personnage filmé et qui termine la fin du témoignage et tu sens bien en fait que il a c'était quelque chose avec lequel il a dû vivre en fait car ce déchirement entre devoir faire quelque chose pour se sortir de sa condition lui-même pour sa gueule mais tout en allant à l'encontre de ce qui fait de lui, de son autre partie de lui, c'est-à-dire l'homme noir en fait, et les gars comme lui qui sont aussi noirs qui essayent de s'en sortir mais en groupe. Enfin c'est vraiment, on sent que et de devoir trahir quelqu'un, tu vois, pour ça. Enfin c'est vraiment quelque chose qu'il a, tu ressens vraiment ce truc-là et c'est beaucoup plus compliqué et humainement c'est super intéressant comme film. Donc voilà.
Est-ce que
Voilà.
sur ce plan, tu dirais sur ce plan que c'est un peu similaire à Donnie Brasco?
Non, 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 je pense pas. Non. Non, 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 non. Non, puis en plus, là, franchement, là, on est vraiment sur des thématiques actuelles. C'est-à-dire vraiment, t'as des trucs qui renvoient à des trucs de maintenant. C'est-à-dire que le, il y a une, la première scène dans le bar où justement, où intervient la Stanfield, où il se fait passer pour un agent du FBI, il y a des trucs que disent, certains personnages dans le pont, en fait, qui renvoient à des trucs, ce pourquoi, les Nord-Américains se battent maintenant encore, quoi. Tu vois, donc, je pense que c'est vraiment le film, c'est un film d'époque qui te renvoie à maintenant, c'est-à-dire vraiment qui fait vraiment écho à ce qui se passe maintenant. Donc voilà, et pas justement qu'au niveau des droits, hein, je veux dire, c'est aussi au niveau justement de la lutte contre le capitalisme, je pense que c'est aussi ça, hein, clairement. Donc voilà. Hello, hello.
Okay.
Alors mon cher Anillo,
Oui.
tu vas
Eh
enchaîner avec
bien,
le Front Bay Hound.
je vais parler d'un film de Stuart Gordon qui est basé sur une nouvelle de H.P. Lovecraft. Stuart Gordon qui nous a quittés en 2020,
Rest in
malheureusement,
peace,
à
rest in
70
peace,
ans.
Gordon. Rest in peace, Gordon.
What? Je me demande s'il y avait un jeu de mots, mais je n'arrive pas à le trouver.
Pas toujours, alors, heureusement qu'il fait des pauses quand même.
Et Stuart Gordon, est-ce qu'il est nécessaire de rappeler que c'est quand même un artisan très connu du cinéma horrifique et fantastique? On va juste passer vite fait, mais on lui doit quand même quelques films intéressants et importants, comme Réanimateur, justement. Il a aussi adapté Lovecraft en 85. Nous avons From Beyond, donc, en 86. Il reviendra à Lovecraft avec Dagon en 2001. Voilà pour les films. Bon, après, faut pas oublier non plus qu'il y a ses portraits, une fort sympathique série B de science-fiction avec notre cher Cricri National.
Oh oui!
Et
Fortress!
oui, même vers la fin, il y a des films intéressants. Je pense à Edmond en 2005 avec William H. Macy, ou Stuck alias Instinct de survie en 2007. Et comme il est toujours de tous les bons plans, et pote avec Brian Usnak, il est aussi, qui est un peu son producteur aussi, et les deux sont aussi en même temps scénaristes, et quand ils se mettent ensemble pour créer un scénario, c'est une série de Tracy les Gosses qui est un succès monstre chez Disney. Et chez les Gosses, d'ailleurs, si on se souvient du film, il y a quand même des moments qui sont quand même bien sombres pour un film pour Môme, quoi, qu'il soit encore bien violent. Et on lit aussi le scénario d'un certain Body Snatchers, la version de 93 de Abel Ferrara.
Ça aurait été
Donc,
bien.
pardon, pardon?
Ça aurait été bien, Body Snatchers par Abel Ferrara.
Ouais, moi, je trouve, j'aime beaucoup, mais c'est les versions 2 et 3, c'est-à-dire le film des années 70 et la troisième version, donc celle de 93 de Ferrara, j'aime beaucoup, c'est mes deux préférés, je pense.
C'est pas avec toi que j'avais fait une nuit Body Snatcher?
Mais j'étais avec toi, oui.
Ah bah c'est bien ce que je me disais, ouais.
Ouais. Et puis, évidemment, le film 2007 avec Nicole Kidman et Daniel Craig, eh ben, il est tout pourri. C'est pas faux, il est tout pourri. Et puis, le tout premier avec de Don Siegel, les années 50, bon, ça a son charme, quoi. Pour aimer les petits films de série B, comme les monstres attaquent la ville avec les fourmis géantes, etc. Moi, j'ai toujours aimé, bah, genre de truc, la dernière fois, j'en ai parlé brièvement, c'était Godzilla, quoi. On est tout à fait dans mon créneau, petit film de monstres d'horreur des années 50. Donc, Stuart Gordon, donc, nous a quittés, donc, récemment, il s'était un peu spécialisé dans l'adaptation de Lovecraft. Et, avec, From Beyond, alias aux portes de l'au-delà en 86, il adapte en fait une nouvelle très courte qui s'appelle De l'au-delà, qui va servir tout comme Réanimator de point de départ, puisque la nouvelle a fait juste quelques pages, hein, qui va servir de point de départ pour qu'il puisse partir un peu en délire. C'est-à-dire que la première partie du film, c'est assez fidèle à Lovecraft, la deuxième partie, c'est un pur délire à la Cronenberg, qui anticipe d'ailleurs de quelques années le délire de son pote Brian Usnak en Usnak à Dark Society. Voilà. Si vous avez vu Society, j'en dis pas plus, mais les dernières 30 minutes, c'est du Cronenberg qui vire en orgie monstrueuse. Tu fais, ah oui, quand même, on s'est lâché sur les effets organiques. Hein. Ah oui, ça, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et From Beyond, en plus, on peut être très content de From Beyond, parce qu'il y a quelques acteurs, quelques pointures du genre, on va dire. Le trio de tête, donc Jeffrey Combs, alors Jeffrey Combs, qui c'était, ou qui c'est plutôt, c'est lui qu'on voit dans Reanimator, justement, c'est le savant fou de réanimateur complètement décalé à côté de la plaque. Mais il n'a pas fait que ça. C'est une tête qu'on voit souvent dans les plein de second rôles. Alors, il a joué dans les films de réanimateur, évidemment. Il a joué dans les films de Scooby-Doo. Il a joué même chez Peter Jackson avec Fantôme contre Fantôme. En fait, il a une filmographie longue comme le bras. Mais il joue souvent des second rôles. C'est l'acteur qu'on dit, eh putain, mais j'ai déjà vu quelque part, lui. Il joue même chez Marvel. Voilà. Même pour Hulk, il est déjà vu. Moi, c'est voilà. Il joue même chez Lego, chez les films Lego pour la vidéo, tout ça. Il est partout. Il est partout. c'est un peu comme Bruce Campbell qui joue dans les Evil Dead. C'est des acteurs spécialisés dans les rôles de série B qui ont une gueule, qui ont de l'humour et qui sont en plus des gens hyper sympathiques, qu'on a plaisir en engageant les films de fantastique et d'horreur, etc. C'est des acteurs qu'on est content de revoir. Autre, donc une actrice qui est dans le film, et qui est aussi inhabituée de Stuart Gordon, Barbara Crampton. Barbara Crampton, qu'on voyait déjà dans Reanimator, justement. Et Reanimator, déjà, ça devait, en plus, quand t'es ado, c'est le genre de film qui peut te donner quelques petites poussées de libidinal d'hormones, parce que dans Reanimator, bah, rien de moins qu'il y a une tête coupée en face et c'est de lui faire un cunis.
Ah ouais, mais il n'y a pas que ça, c'est qu'il s'est pas mal tripoté dans mon souvenir. Et je regardais le film, la dernière fois que j'ai vu le film, je me suis dit, oh mon dieu, mais pour l'actrice, à se faire tripoter comme ça, mais c'était. Je me suis dit, ça n'a pas dû être simple. Hein.
Mais c'est une actrice en plus qui n'a pas froid aux yeux, puisque un an avant Reanimator, elle joue dans Body Double de Brian De Palma. Body Double qui parle à la fois de la prostitution, des doublures, tout ça. Enfin, Brian De Palma, on peut en nous trouble, quoi.
Ouais.
Et donc, elle va retrouver donc, notre cher Sir Gordon dans From Beyond, où elle joue le docteur Catherine Michaels, Mac Michaels. Et là, c'est un rôle qui est encore plus poussé, puisque From Beyond, il y a une partie qui est presque carrément sur le érotique. Vu que je vais en parler après, mais on va en parler après, vous allez voir. Elle va retrouver à nouveau notre ami Sir Gordon donc, sur Castle Freak en 95. Castle Freak qui est sorti directement en vidéo, qui n'a pas eu le droit à la sortie de salle, mais elle aussi Geoffrey Combs. Donc voilà, elle retrouve aussi pour Space Trucker, un film de science-fiction complètement barré, des routiers de l'espace, à nouveau de Stuart Gordon. C'est vraiment un peu de la famille, quoi, c'est les gens qui se retrouvent, etc. C'est voilà. Mais, attention, on va la retrouver aussi dans Lord of Salem de Rob Zombie en 2012, dans Your Next en 2011, dans, enfin, voilà, une carrière immense. On la voit aussi comme Geoffrey Combs dans les gros, donc t'es content d'avoir fait. Ah, Barbara Crampton, trop bien! Voilà. Et enfin, troisième pointure, et non pas des moindres, Ken Foree. Ken Foree, F-O-R-2-E, lui,
oui.
Voilà, ça doit évoquer quelque chose. Zombie, ah, oui. George Romero, deuxième volet de la saga, le meilleur pour beaucoup de temps.
Ouais, et je vois aussi, il n'est pas crédité, mais on a récemment découvert que c'était vraiment lui qu'on voyait dans le premier Terminator, qui joue le deux premiers trucs qu'on voit dans Terminator. Mais et aussi il a joué aussi avec Dolph Lundgren. Alors j'ai oublié le nom du film, mais il a joué aussi avec Dolph Lundgren.
Tout à fait. Et on le retrouve aussi chez Rob Zombie dans Lord of Salem aussi, comme par hasard, dans The Bad Reject, dans le Halloween, et par exemple même Romero, il va reconnaître de Romero dans Knight Rider aux côtés de Ed Harris. Alors quand t'es content de jouer dans un film de Ed Harris, tu fais ah ouais. Il jouera même dans X-Files, dans l'épisode de X-Files, tout ça. C'est que des artisans de série B, bien, Massacre à tronçonneuse 3, en 90, il est dans Code Quantum, il est dans aussi, il est partout. Ouais. Quand 2000, il est, voilà, c'est des mecs qu'on trouve dans plein de rôles, c'est à la fois à la télé, dans le cinéma, et que dans les genres, la série B, le fantastique, l'horreur, la science-fiction. C'est un peu un créneau, mais comme c'est des bons clients, voilà, bon, on va pas révéler un peu l'histoire de zombies. Tu t'en souviens un peu, Nelson?
L'histoire de zombies?
De Romero.
Ah bah oui, rapidement, ouais. Ouais.
Ouais, et ben il joue un flic dans le zombie de Romero, et je pense que c'est aussi un clin d'œil qu'il joue aussi un policier qui dans From Beyond, puisque là, en fait, le docteur Crawford Tillinghast, qui est joué par notre cher Geoffrey Combs, très rapidement bascule en folie à cause d'expériences complètement démoniaques de son mentor, le docteur Edward Pretorius, joué par un Ted Sorel, qui lui, par contre, est un acteur qui n'a pas une grande carrière, qui n'est pas spécialement connu, mais qui trouvera peut-être là son rôle le plus marquant. Il est décédé en 2010. Et donc, Crawford se fait interner en psychiatrie. Et Ken Foree, donc, ça va être le flic qui va accompagner le docteur joué par Barbara Compton, le docteur Catherine McMichaels, pour qui il faut prendre soin du patient. Et là, il va savoir ce qui s'est passé, pourquoi on trouve un corps qui a été décapité, mais il n'y a pas de sang, il n'y a pas de tête. Voilà, il s'est passé quelque chose. Pourquoi les qu'est-ce que c'est que cette machine qui est dans leur laboratoire? Et pour la petite histoire, il y a le docteur Bloch, qui est joué par Caroline Purdy-Gordon, qui est une actrice, qui est en fait à la base une actrice de théâtre, mais qui est surtout l'épouse de Sir Gordon. Mmh. Donc Sir Gordon, il va faire jouer son épouse pas mal de films, dans Dolls avec les poupées. On la retrouve, elle, d'ailleurs c'est un de ses meilleurs rôles, c'est avec des poupées meurtrières, et à la fin elle sera changée en poupée quasiment, pour avoir un peu martyrisé sa belle-sœur. Donc voilà pour From Beyond, on peut dire de plus, les maquillages sont maquillages totalement organiques. On est vraiment dans le domaine à la fois de Lovecraft mais de Cronenberg. Il y a des couleurs très violettes, très fluo, qui sont presque un clin d'œil à Dario Argento, pour montrer un peu des créatures qui sont visibles dans une espèce de pop entre les mondes. C'est totalement barré ce genre de film qu'on pourrait plus faire encore aujourd'hui. Et puis même si on faisait le film aujourd'hui, il y aurait des effets en CGI qui seraient immondes. Où Nelson et la grande image dirait ah là il y a pixels qui se perdent.
Ouais, il y a un petit peu
ça. Voilà. Et puis même il y a même la musique est fabuleuse. Je crois qu'il y avait une nomination nomination au prix du meilleur film d'horreur en 87. Voilà, pour l'Académie des films de science-fiction. Mais il y a eu prix de la meilleure bande originale et meilleur film spécial au Festival du film de Catalogne en 86. Donc voilà, c'est un petit film d'ailleurs qui gagne à être vu. C'est pas, je sais pas si, on dirait pas que c'est le meilleur Sir Gordon. Je sais pas qui est pour le meilleur Sir Gordon, peut-être Reanimator, mais j'adore Dagon. Je dirais Dagon personnellement. Mm. Et j'aimerais bien me revoir Fortress prochainement, donc affaire à suivre dans nos visionnages de Simon Belfon sur Sir Gordon. Mais en tout cas, ça reste une bonne série B d'horreur des années 80, comme on les aime, bien dégoulinante, bien organique, un peu gore, bien barré. Voilà.
Ok.
Donc, cher Nelson, tu veux enchaîner sur la science classique. Le oui, bon, la brute et le truand.
Les popcorn.
Del Sergio Leone.
De Sergio Leone, un film de sorti en 1966 donc Sergio Leone au scénario Luciano Vincenzoni. Sergio Leone à Genor Croci et Furio Scapelli.
Quoi?
À la musique Ennio Morricone.
Ah oui.
Pardon?
Non, c'est parce que t'as dit Sergio Leone après tout un tas de trucs que j'ai pas compris en fait en italien.
Ah pardon. À Genore Croci et Furio Scapelli.
D'accord. Voilà.
Avec Clint Eastwood, Lee Van Cleef et Eli Wallach. C'est la suite de la trilogie du dollar avec des acteurs incroyables. Ce film qui est le western préféré de mon papa, que j'ai revu récemment et qui était donc avec les scènes avec les scènes coupées. Alors bon, ce film qu'on présente plus se passe pendant la guerre de sécession et c'est donc Blondin, donc l'homme sans nom qui fait livrer des gens recherchés qui ont des primes sur leur tête, des gens qui ont des primes sur leur tête en fait. Blondin qui est un chasseur de primes, il prend donc les gens qui ont des primes sur leur tête, et au moment où ces gens-là vont se faire prendre parce qu'ils sont condamnés à mort, et il sort de là en tirant sur la corde et donc il récupère la thune et il partage avec l'ex-condamné. Il a essayé de flouer un de ses fugitifs qui...
C'est la fatigue aujourd'hui, hein.
Ouais, c'est la fatigue un peu, ouais. Il me faudra un bon café. Il était un de ses fugitifs. Il est tout court pour se venger, le retrouver et l'amener dans le désert pour le faire crever. Seulement le problème, c'est qu'entre-temps, il y a une diligence pleine d'or, pleine de fric, ou alors du moins au départ on pense qu'elle est pleine de fric, qui va s'écraser et en fait enfin qui a été pris dans une dans un guet-apens elle a pris la fuite et en fait tout le monde est mort à l'intérieur sauf un mec qui indique à Blondin qui est à l'article de la mort que il y a des milliers de dollars en or cachés dans une tombe. Et lui seul connaît où est-ce, enfin sur quelle tombe est le son caché, les milliers de dollars. Et entre temps, ces deux personnages sont rejoints par Sentenza, un capitaine impitoyable qui, avant justement de cette affaire, va aussi vouloir sa part du gâteau et donc va se lancer à la recherche de et Blondin et Tuco. Voilà, à peu près pour l'histoire. Et donc, en tout cas pour l'histoire, sans la spoiler. Ce film est un film légendaire, véritablement, mais encore plus, en fait, je pense que la version longue est totalement inutile. Ah. Pourquoi ? Parce que quand on regarde les scènes qui ont été coupées, bah, en réalité, elles servent très peu d'histoire, quoi. Et du coup, on peut extrêmement bien s'en passer, et la version... on a tous vu à la télé, eh ben, elle suffit complètement au film. Elle se suffit complètement à elle-même. Donc, du coup, voilà, je l'ai regardé en VF, parce que, voilà, VF oblige mon papa à côté, et aussi, parce que c'est une VF de légende. Eh ben, malheureusement, les scènes coupées, petit rototo, je suis désolé, les scènes coupées, ben, elles n'avaient pas été redoublées, elles n'avaient pas été doublées. Et les doubleurs de l'époque, bah, ils sont morts. Donc, du coup, ils ont fait un truc assez bizarre, c'est qu'ils ont pris, comme s'ils avaient pris un seul doubleur, et ils avaient pitché sa voix. C'est assez curieux, c'est assez bizarre.
À la vache!
La voix de Tuco, si tu veux, c'est pas très proche, mais bon, c'est quand même, ça va à peu près. Mais la voix de Blondin, c'est vraiment, on a l'impression que c'était pitché, quoi. Et tu sais, genre qu'ils ont essayé de l'arranger au même timbre de voix et Sentenza, c'est pareil. Du coup, et il n'y a pas beaucoup de scènes où justement coupées où il y a Sentenza, il y en a d'avoir peut-être une.
Mais c'est horrible, ils auraient dû tout redoubler, quoi.
Mais c'est vraiment, vraiment curieux et très gênant. Donc du coup, franchement, cette version-là, il vaut mieux la regarder en VO. Au moins, il vaut vraiment mieux la regarder en VO. Au moins, on n'y perd pas le fil, parce que moi, des fois, ça me faisait vraiment perdre le fil, cette VF un peu rafistolée, là. Parce que, très honnêtement, moi, j'ai toujours préféré, voilà, la VF à la VO. Mais malheureusement, ce rafistolage-là fait que, il vaut mieux regarder en VO qu'en VF. Après, la VO de base qu'on a pu se regarder, elle est légendaire, elle a été extrêmement bien adaptée. Du coup, on n'y perd pas au change. Mais malheureusement, ce truc, en plus de ça, il y a certains plans qui ont été donc rajoutés dans certaines séquences. Il y a certains plans où il y a des défauts techniques. Alors bien évidemment, moi je suis pinailleur. Je regarde le truc, tiens, le point il est mou, tiens, c'est curieux ce machin, mais en fait, c'est un peu des fois, je regardais ça en me disant, est-ce que c'est plus pour faire du remplissage, ou est-ce que c'est vraiment des scènes qui ont été coupées, et c'est la totalité des scènes coupées, des plans, est-ce qu'ils ont vraiment mis tous les plans de chaque séquence, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est curieux, c'est vraiment curieux comme version. Donc moi, bon, ce film-là, il est intouchable, hein, on est d'accord. Ce film-là est vraiment, c'est véritablement un de mes westerns préférés. Ça, et le voleur de chevaux. Mais franchement, on aurait pu s'en passer, quoi. On aurait pu se passer, en tout cas, de trucs avec des scènes coupées. Au pire, ils auraient fait dans des bonus, quoi. Mais c'était pas nécessaire parce que véritablement si on se dit ah tiens on va regarder la VF et ça va être vraiment cool de se refaire un petit revival comme ça, vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate parce que vraiment vous allez être perdu quoi.
Vous allez être perdu, parce que des fois, c'est des trucs qui font, quoi, aller, des fois, des séquences font, autant des fois, c'est des trucs qui vont faire aller 30 secondes, ça gêne pas, mais des fois, c'est des trucs 2-5 minutes. Et moi, ça me perturbe, quoi. Ça me perturbe vraiment la séquence de Tuco qui retrouve ses complices. Franchement, non. Au pire, faites comme à l'époque bon, ça c'est pour les plus vieux, les mecs qui allaient télécharger les épisodes de Nicky Larson sur les FTP avec les épisodes de Nicky Larson censurés et qui avaient et la VF et les passages censurés et apparaissant en japonais, et ben là c'est exactement le même truc qu'ils auraient dû faire parce que franchement, malheureusement, là c'est pas différent.
Voilà. Ouais, c'est un peu la démonstration que, enfin, on a une époque où absolument, il faut absolument sortir les versions, soit des restore cut, ou, soit, version longue, machin et tout. C'est comme si, en fait, le fait d'avoir coupé le film de certaines scènes, on considérait pas ça comme le vrai film, et qu'il fallait absolument tout voir. Or là, pour toi, ça serait plutôt la démonstration que finalement, c'est pas toujours tout utile de voir, quoi.
C'est ça, et puis en plus, c'est assez curieux parce que à la maison, moi, j'ai la trilogie de Alien avec les director's cut. Alors, moi, si on me dit, bon, pour le premier Alien, je peux comprendre que, bon, les trucs, ils n'avaient pas été... il n'y avait pas de version longue qui sortait à l'époque. Même en VHS, ça ne devait pas exister, etc. Ça, je peux le comprendre. Mais Alien 2, encore à Alien, je peux aussi comprendre, mais Alien 3, il me semble, et alors après peut-être que je peux me tromper, hein, mais il me semble qu'il y avait une version longue qui existait. Et pourtant, quand vous regardez Alien 3, et ben, surtout la Director's Cut, et ben, c'est exactement pareil qu'ils ont fait pour le bon, la brute et le truand, hein, c'est-à-dire que voilà, vous
avez dit. Nelson, oui, en tant qu'Alien, je me dois de t'interrompre, en tant que fan d'Alien. En fait, c'est pas vraiment une version longue d'Alien 3. Il y a la version qui a été sortie en salle, et sachant qu'à la base, Fincher a beaucoup souffert parce qu'il y a pas mal de trucs qui a été charcuté. Mmh. Quand tu vois dans l'énorme coffret Alien Tetralogie qui regroupe donc à chaque fois plusieurs versions des films, t'as en fait une version qui est supposément la version Director's Cut. Mais David Fincher, entre temps, comme il a été tellement dégoûté, il a demandé à ce qu'on fasse retirer son nom, donc c'est un film de Alan Smithy. En fait, c'est pas vraiment une version longue ni rien, c'est une version qui incorpore soit des scènes coupées, soit des scènes qui avaient été tournées à la base mais qui n'ont pas marché. Comme le chien qui sort en fait du corps d'un taureau, enfin l'alien qui sort du corps d'un taureau, du corps d'un chien, etc., tout ça. Donc c'est un truc à part. Tout comme une résurrection, qui est une version spéciale différente dans le coffret.
Ouais, c'est ça, c'est ce coffret-là dont je parlais. Et d'ailleurs, c'est un coucou à mon frère, parce que c'est lui qui m'a passé, et je l'ai toujours pas rendu. Mais, la chose étant, c'est vrai que, moi, c'est un peu ce que j'ai découvert aussi, en regardant, à l'époque, la version, Director's Cut de Alien 3, c'est que j'étais vraiment surpris qu'ils aient pas, que ces trucs-là n'avaient pas été doublés à l'époque, donc du coup, ça me sort. Donc voilà. Vaut mieux regarder ces épisodes, ces versions-là. Regardez-les en VO, même si ça fait mal, même si vous avez grandi avec la VF et que la VF vous l'a surkiffé. Regardez-les vraiment en VO parce que ça risque vraiment de vous perturber, ce genre de choses. Enfin, en tout cas, moi, ça me perturbe. Donc, mais voilà. Après, le film, il est vraiment intouchable. Ça, je l'ai dit et ça, je le répète. Et je vous conseille de vous le remater parce que c'est un chef-d'œuvre. Il fait 3 heures, mais c'est un chef-d'œuvre. On s'emmerde pas une seule seconde. Il y a pas, des fois, il y a pas beaucoup de texte. De dialogue, pas de texte, je raconte. Il y a pas beaucoup de dialogue parfois pour certaines séquences. Ça joue plus sur les non-dits sur le jeu d'acteur, sur les regards, etc., qui est un des codes, on ne se le cachera pas, c'est un des codes du western spaghetti, enfin du western en général, mais du spaghetti en particulier. Et c'est un truc qui m'a... C'est un des films où je me suis dit... parce que pendant longtemps, les western spaghetti, je regardais, c'était... Il y en avait beaucoup où on montrait
montrait la mort violemment et on montrait les corps nus. Et celui-là, c'est un des seuls, en fait, où on ne le fait pas. Donc, du coup, ça m'a pendant longtemps, c'est, je me dis, ah ouais, non, mais genre, je me la raconte, comment ça s'appelle, connaisseur. Mais pendant longtemps, je pensais que, en oubliant volontairement, involontairement, le bon, la brute et le truand, bah, pendant longtemps, les western spaghetti, ils disaient, ah ouais, mais non, mais c'est normal, il y a du loup, il y a du, comment on appelle ça, c'est un peu trash et tout, machin. Et en fait, en oubliant complètement que bah, le bon, la brute et le truand, c'est pas ça. Et donc, ils ne montrent pas ça. Donc, c'est pas une exception qui confirme la règle, ou c'est pas un code du western spaghetti qui est du nu ou des morts violentes. C'est selon les réals, et franchement, celui-là, il a véritablement, enfin, c'est un film de légende, et c'est surtout dans son jeu, et dans sa très très bonne adaptation en VF, parce qu'il y a des séquences qui sont vraiment, et en VF et en VO, qui sont drôles pareil, quoi. Et moi, je trouve que c'est vraiment une réussite. Un film est une réussite quand il est bien adapté en VO, il est bien adapté en VF et qu'il est super, il est encore plus drôle quand il est en VO. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, même si j'ai eu du mal à le dire. Voilà.
D'accord.
Moi, je vais rebondir dans Sean Nelson sur l'apport de la violence et de la nudité dans le western et puis le western spaghetti. La Horde sauvage en 69, donc juste quelques peu de temps après Le Bon, la Brute et le Truand, ça a été vraiment le basculement, même si Sergio Leone, c'est un peu grâce à lui, a apporté une dimension totalement cynique et violente. Et Peckinpah, de son côté, lui, a amplifié la violence en montrant carrément des corps qui saignaient, qui giglaient, qui explosaient par les armes, tout ça. Donc il y a toujours eu des échanges entre l'Amérique et les États-Unis. Et je pense que Peckinpah devait être admiratif de
l'Amérique par ça, quoi. Et tu voulais dire l'Italie et les États-Unis, parce que tu as dit l'Amérique et les États-Unis.
Oui, l'Italie, il y a toujours des échanges comme ça, quoi. Quand les Américains, ils ont vu le western spaghetti, que parfois c'était largement mieux que leurs trucs, ils ont fait, ils ont peut-être commencé à paniquer. Et Peckinpah, c'est quelqu'un qui a évolué en même temps qu'une partie du cinéma des années 70, qui a vraiment évolué comme le réalisateur de Bonnie and Clyde, comme plein de réalisateurs, même les réalisateurs du nouveau Hollywood, quoi. Peckinpah, c'est quelqu'un qui a changé son style et qui s'est fait de plus en plus violent, ou même plutôt, ça a suivi un peu sa propre vie, il était quand même de plus en plus désabusé. Et les films, ça s'en ressent, quoi, une espèce de désabusion, qui quelque chose qu'il a porté aussi à ses films, mais aussi au western, d'autres trucs, quoi. Voilà.
Et alors, je voulais juste préciser juste un truc. Il a été tourné en Espagne, et en Espagne, sous Franco. Et en fait, apparemment, d'après ce que j'ai lu, Clint Eastwood, en 73, expliquait qu'en fait, les Espagnols, tant que ça parlait pas de l'Espagne, qu'il n'y avait pas d'Espagnol dans le truc, ils n'en avaient rien à foutre, il s'est tourné, quoi. Donc voilà, ça a été réalisé sous l'Espagne de Franco. Et juste pour rajouter un truc à ton propos sur le western spaghetti, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai plus le nom de ce western, mais celui avec le tireur qui était aveugle, ou celui-là, carrément, c'est la foire à la saucisse. J'ai jamais vu autant de meufs à poil dans un western spaghetti. Mais c'était début des années 70, je crois que c'est 69 ou 70. Mais celui-là, c'était waouh. C'est là où tu dis, ok, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un bug dans la matrice, c'est parti en vrille. Mais je pense que c'est après, justement, là, en fait, ouais, mais ouais, il y a quelque chose qui était vraiment parti en vrille. Voilà pour moi.
D'ailleurs, c'est pas pour toi, Nelson, mais Le Bon, le Brute et le Truand, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Mais juste avant, le deuxième volet de sa trilogie des dollars, donc, pour quelques dollars de plus, je trouve que c'est de plus en plus un chef-d'œuvre aussi quand tu réévalues que c'est presque au même niveau pour moi que Le Bon, le Brute et le Truand, quoi.
Ouais, c'est vrai.
C'est bon?
Ouais.
D'accord. Moi, je vais enchaîner avec un film Vampire Cop Ricky. En fait, c'est vraiment que j'avais le DVD à côté de moi. Enfin, je crois que j'avais dû le piocher dans un bac quelconque. Je crois que je sais plus si c'était à Feu Boulinier ou un truc comme ça, je sais plus.
Et
Restez Boulinier, Saint-Michel. Parce que je crois qu'il y a encore les petites boutiques sur les bords. Je crois qu'il y a encore une ou deux boutiques, mais je suis pas sûre. J'ai vu qu'il était sur la plateforme FreaksOn. Disponible à un modeste abonnement. Donc, Vampire Cop Freaky, qui est un film de 2006. Et en le matant, en fait, je pensais qu'il était plus vieux. Que j'ai regardé la date après. Parce qu'en fait, dans la manière de faire, en fait, je trouvais qu'il y avait des trucs qui me faisaient vraiment penser à fin 90, début 2000. Donc, après, je peux, voilà. Je sais pas, j'avais une impression comme ça, en fait. Dans la manière de faire le film, en fait, qui me faisait penser à un film de divertissement américain, de ces de fin 90, 2000. Donc l'histoire. Alors, l'histoire, c'est un truc tout codou. En fait, c'est l'histoire d'un moustique qui va piquer Dracula, qui va ensuite voyager jusqu'en Corée sur la vitre d'un avion, et qui va venir piquer un flic en Corée. Donc, et du coup, ce flic, qui est un espèce de boulet, en fait, corrompu, voilà, machin, qui a quand même une chérie qui est toute mimi, il va se retrouver d'un coup avec en devenant un vampire. Je vais d'abord commencer par Léu. Moi, j'ai focalisé sur les acteurs, en fait, l'acteur justement qui fait Ricky. Lui c'est un acteur qui a une formation en fait théâtrale et après qui est devenu un peu spécialiste dans les films du côté comique et de voler la vedette par son côté comique justement. Et Vampire Cop Freaky, c'est un peu, je crois que ça doit être le premier film sur lequel il a un rôle de premier plan. C'est vrai que quand tu regardes le making of, il est en mode hyper sérieux. Oui, alors j'ai décidé que ce rôle, que j'allais le faire comme ça et tout. On sent qu'il se prend un peu beaucoup au sérieux d'un coup. Je sais pas si c'était vrai ou pas, mais voilà. Et il le dit clairement que c'est pour ça qu'on l'a appris, hein, que c'était pour le côté comique. Hein. Ensuite, celui qui fait son Lavin Prest, en fait. Alors, je me disais, je l'ai vu quelque part. Elle s'appelle Leo Jeong-cho. Celui qui fait Kim, Ricky, s'appelle Suro Kim. Et celui qui fait, celle qui fait son Love Interest, s'appelle Ye Jeong-cho. En fait, je voyais sa tête, et je me disais, elle me dit quelque chose. Bah, bingo. En fait, c'est elle qui fait la mère de famille dans Parasite. Donc, voilà. Elle a fait, enfin, comme toutes les actrices, elle a fait beaucoup de télé en course. Et elle a pas vraiment fait beaucoup de long, en fait. C'est vraiment une actrice de télé de base. À part ces deux-là, donc, il y a aussi le méchant, qui s'appelle Son Byung-ho. Et lui, bon, c'est un acteur assez classique, en fait. Lui, il a, pour le coup, un acteur très, un parcours classique de cinoche. Enfin, il a énormément fait de films, cinéma, énormément de télévision. Donc voilà. on est sur le mec qui ont été plutôt bien choisis, en fait, sur leur rôle. Après, si on devait faire un comparatif sur le film, en fait, on pourrait dire qu'on est sur une origin story de super-héros, mais en comique. Alors oui, vampire, mais ce qu'on retient en fait sur le film, c'est qu'il a des pouvoirs. Donc, d'ailleurs sur le film, en fait, il y a plein de trucs qui rappellent Spider-Man de Sam Raimi. Comme par exemple avec la musique, en fait, déjà qui fait, je trouve qu'elle fait très Danny Elfman. Il y a des enjeux sentimentaux, justement, entre en fait, tu vas dire vampire, c'est la vie triste. Il y a, c'est le héros, il est boulet complètement, en fait, avec des problématiques. Un jour, il se fait piquer et il se réveille dans un nouveau corps. Ta-da! Donc voilà. Et il y a une scène similaire aussi, parce que je sais pas si on veut savoir Spider-Man. Se souviennent, à un moment il est au plafond et il y a une goutte de sang qui s'apprête à tomber sur le sol, mais il y a quelqu'un en dessous et il se dit pourvu que la goutte de sang tombe pas. Et ben il y a la même chose avec une casquette, en fait, là. Il est au plafond, il y a une casquette et il essaie de remettre sa casquette pour pas qu'elle tombe, et en fait c'est pourvu qu'elle tombe pas. Voilà, le même topo. On a un méchant qui est un vrai méchant. un méchant classique avec les phrases de méchant. Et, mais après, en fait. Hein?
Avec des phrases de méchant.
Mais oui, tu sais, les trucs un peu bateaux, quoi. Et en fait, apparemment.
Tu as des rires de méchant.
Oui, mais justement, c'est ça le truc. C'est que... Attends, laisse-moi lire justement, parce qu'en fait, le truc, c'est que le méchant, en fait, l'acteur le décrit comme un petit peu un psychopathe. Le seul truc, c'est qu'il est psychopathe, mais uniquement dans les rires, justement. Et en fait, apparemment, il y avait une volonté de s'inspirer du Joker. Pas version Joaquin Phoenix, hein. Les anciennes versions. Mais c'est très léger, quoi. Mais tu sais, c'est ce truc un peu cliché de dire, ah, c'est un psychopathe, mais en fait, il rigole sur tout, il dit, oh, bah, je vais te tuer, enfin, c'est un truc. Et encore, c'est même, je le trouve très gentil comme psychopathe. Donc, voilà. Et, il y a juste
psychopathe.
Ça. Voilà, il y a le rire et le fait qu'il se maquille. Mais à l'heure où, à une époque où beaucoup de youtubeurs beauté sont des hommes et se maquillent dans les vidéos, je veux dire, un mec qui se maquille, ça fait plus très méchant, en fait. Hein. Bref. Il y a tout ça, mais c'est une comédie potache. Donc, l'acteur, en fait, qui l'acteur principal a clairement dit que donc c'était les pensées qu'on avait pris. Et du coup, il y a tas de trucs qui sont clownesques. Et beaucoup de trucs dans le comique résident dans le fait que c'est aussi libidineux. C'est-à-dire qu'en fait, mais ouais, attends, il devient vampire, pourquoi? Quand il est excité. Donc, voilà, dès qu'il voit un petit cul, dès qu'il voit un morceau de peau de nana, de cou, machin, allez hop, il bande et ils le disent d'un clairement, ça arrive, oui, il devient vampire quand il bande, en fait. Donc, ça donne un peu une idée des idées, des inconvénients que ça génère, en fait, pour le perso, et surtout, en termes de comédie, quoi. C'est un peu la problématique du truc. C'est parce qu'en fait, il lui faut un afflux d'adrénaline, en fait, c'est pour ça. Généralement, c'est quand il monte. Voilà. Et donc, le héros, c'est pas un mec fino, hein, je veux dire, c'est un boulet, voilà, machin et tout. Des fois, on pourrait dire qu'il est un peu immature, mais bon, c'est large, ça, comme définition, mais ouais, c'est un boulet. Mais son entourage, en fait, il est un peu du mec à cabi. Donc, surtout, enfin, on perd pas de temps, tu vois, par exemple, à convaincre les gens de la situation, du fait qu'il essaie de devenir vampire. Il a des gens qui sont relativement réceptifs. Hein. Juste un petit truc, il dit, bah si, regarde, tu vois. Ils font, ah oui, d'accord. Donc voilà, ça perd pas de temps. Voilà, c'est là où on ressent l'influence du divertissement à l'américaine, en fait, c'est par des petites choses. C'est-à-dire, par exemple, l'intérieur chez le prêtre, en fait, il est en mur de briques rouges. C'est assez typique des décors urbains américains, ça. Et surtout, en 2006, c'était assez, c'était un peu la mode, comme ça, de ressortir des trucs, de vieux squats en new-yorkais, ou des trucs comme ça, quoi, tu vois. Ou mettre des bons sentiments qui sont gros comme une maison, avant d'être interrompus par un moment d'action dramatique. Où y a un plan en fait dans une église, tu vois, enfin, oui, parce qu'ils sont dans une église. Je sais pas c'est quoi l'importance de la communauté chrétienne en Corée, mais ça se passe dans une église. Et donc voilà, on est deux nuits, un prêtre qui est à l'hôtel, on est en arrière, à l'arrière de la salle, et travelling arrière dans la nuit avec le prêtre à genoux à l'hôtel. Ouf, ça fait très très divertissement américain comme type de plan, mais après c'est vrai qu'il y a du coup pas mal de travelling de gauche à droite du perso, d'avant en arrière, même pour des plans larges, hein. Enfin, c'est là pour le coup, c'est un peu le truc qu'il a utilisé pas mal, assez de manière assez redondante. Il y a une scène de boîte de nuit en fait où il prend la mesure en fait de ce qu'il peut faire physiquement et qui est assez sympa. Et d'ailleurs l'acteur en fait il dit que pour changer un peu de ce qu'il y a de commun en fait à ce qu'aurait pu se faire, je sais pas à quoi il faisait référence exactement, mais voilà, et lui il a demandé en fait à mettre des arts martiaux hongkongais à ce moment-là.
D'accord.
Donc c'est pour ça qu'on a aussi des arts martiaux hongkongais dans le film.
D'accord.
Voilà. En fait, en gros, on est sur un film assez hybride, en fait, qui emprunte beaucoup de choses, puis qui me remixe un peu à sa sauce. Voilà. Mais ça reste sympa. Voilà. C'est pas fou, mais ça reste sympa. Balou, balou.
Ah, c'est okay. Dans le même délire, il y a Vampire Yakuza. Attends, je vais te dire ça tout de suite parce que c'est je crois que c'est Yakuza Apocalypse de Takeshi Miike.
Ah, mais si, ça j'avais vu. Ouais.
Voilà, dans le même délire un peu qui part un peu dans tous les sens. Avec justement un vampire, etc.
C'est assez sympa. Mais Vampire Cop Riki est quand même dans un format plus classique. Parce que dans mon souvenir, Yakuza Apocalypse, c'est un peu fou quand même. Dans mon souvenir.
Ouais, mais...
Voilà. Alors que dans Vampire Cop Riki, il est quand même. Voilà, c'est un schéma scénaristiquement qui est plus classique. Voilà. C'est...
Ouais.
Voilà, voilà. Donc,
voilà, voilà.
On va terminer avec notre cher Nio et avec... On va terminer avec Nio avec son documentaire Derrière nos écrans, le fumet.
Oui, et ben voilà, c'est un documentaire récent de 2020 qui est sur Netflix. Et non, on leur fait pas de la pub puisque dans les derniers temps, c'est pas dessus. Donc, voilà. Et qui va parler donc des interactions et des problèmes liés aux réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, etc. Un documentaire de Jeff Orlowski. Est-ce qu'il est connu? Non, pas tellement. Le gars a fait pas mal de... a peu fait les postes des producteurs qui s'occupaient de l'image, du cadre, tout ça, etc. Et en tant que réalisateur, il y a juste quelques docus ou des courts-métrages, notamment dans l'un des écrans fumés qui est le plus récent. Il a aussi fait un documentaire sur les barrières du corail en 2017, un truc bon, voilà, mais pas quelqu'un qu'on connaît bien. Et j'ai peine à croire que le documentaire, on s'en souviendra d'ici quelques années non plus, parce qu'en fait, même si c'est un truc assez intéressant, et il y a du bon et du moins bon. Le moins bon, on va y venir tout de suite, c'est que si vous connaissez déjà bien Internet et tout ce qui est réseaux sociaux, etc., ça ne vous apprendra pas grand-chose.
Mmh.
C'est-à-dire que, oui, on suit plusieurs personnes qui ont participé à la création de Facebook, de Google, de Gmail, de Pinterest, de Instagram. On suit notamment Tristan Harris, qui a été responsable de tout ce qui était la partie éthique chez Google et qui est par la suite qui est un peu parti pour créer une association, le Centre pour la Technologie Humaine. On voit pas mal de gens qui ont travaillé dans Facebook, qui ont un peu côtoyé Mark Zuckerberg, d'autres trucs. Et on a l'impression quand même, le fait de voir des documentaires, c'est comme s'ils faisaient un peu leur primer à culpa, du genre, oui, on a créé des monstres, on n'a pas aussi les contrôler. Parce que c'est un peu ça qui ressort du truc, quoi. Et c'est là que je dis que ça n'apprend pas grand-chose aux gens. On voit surtout, par exemple, à un moment qu'il y avait des IA, des algorithmes qui ont été faits. Je pense, par exemple, aux recommandations, les notifications, n'importe quelle notification sur Twitter, sur Facebook, même YouTube, par exemple. YouTube qui va, les algorithmes contrôler et voir à chaque fois un truc que selon tes goûts ou d'après tes goûts, comme ils les calculent. Et en fait, à chaque fois que tu vas cliquer, soit c'est pour vendre de la pub, soit être en attente, la moindre notification, etc., quand ça charge, tu perds 3-4 secondes, donc ça charge, et c'est encore des secondes du temps d'usage que eux-mêmes ils gagnent, etc. Et en fait, ça rappelle des choses qu'on a tendance à oublier, mais qui sont franchement vachement flippantes. Donc ça, c'est quand même le bon point du docu. Il y a une idée assez intéressante aussi, c'est de mettre en parallèle les intervenants avec une partie fiction. C'est-à-dire qu'ils ont engagé des acteurs pour recréer une famille recomposée américaine banale. Le père qui est noir, qui doit être technicien, la mère qu'on voit, qui est blanche. Donc il y a une famille recomposée. Et dès le début, on voit que c'est parti un peu fiction, que toute la famille, elle est scotée sur téléphone, on est vraiment en 2020, quoi. C'est une chose qui me gonfle personnellement avec la société actuelle, même quand je suis avec des gens, des amis, etc., ils sont tout le temps sur leur téléphone. Mm-hmm. Même moi, quand je suis au bar, quand j'étais au bar avant le Covid, quoi, donc c'était ça fait loin déjà.
Même quand loin de...
Ouais, quand j'ai d'autres trucs, je sortais pas mon téléphone, quoi, ou je sortais pas tout le temps. Tu vois, je veux dire, il n'y a plus de dialogue. Alors là, c'est ce qu'on voit dans la famille, etc., c'est un peu cliché. En même temps, c'est un peu la vie actuelle, malheureusement, c'est triste à dire. Et on voit que la fille, pas la fille aînée, mais la fille, la cadette, elle est tellement accro sur son téléphone que la moment, quand la mère veut organiser un repas, elle dit hop, on coupe le téléphone, etc., on le met dans le bocal. C'est une amie qui m'a inspiré ce truc, on met ça dans le bocal, pas de téléphone dans le repas. La gamine, elle craque, elle essaie d'ouvrir la boîte, c'est une boîte de sécurité, etc. Elle finit par péter la boîte sur le sol de la cuisine pour. Elle prend son téléphone et se barre. Bah, ambiance, mais je pense que c'est pas éloigné que c'est un truc où on veut couper le téléphone, l'addiction au téléphone chez les ados, et je pense que c'est pas vraiment éloigné d'aller à l'arrivée, quoi. Et on va suivre aussi le gamin qui est au lycée ou à l'université, je sais pas, qui est tellement accro sur la nana qui l'a flashé, etc. Et à un moment, son téléphone, le micro est pété, la mère lui fait, écoute, si tu arrêtes avec lui être sur ton téléphone pendant une semaine, voilà, je te repaye un autre téléphone ou un autre écran, etc. Le gamin, il dit, ok, je vais pouvoir réussir. Et pendant 3-4 jours, il arrive à tenir le coup. Seulement, le quatrième jour, hop, il y a une notification qu'il reçoit. Alors, bon, le téléphone, il était resté branché sur la prise, tout ça rechargé. Bon, merci pour les incohérences dont le spectateur a l'impression qu'il est un crétin, il ne pourrait pas comprendre. Non, je suis désolé, le téléphone, tu l'éteins. Pendant 3-4 jours, il va pas non plus vider son truc, tu vois, je veux dire.
Non, mais par contre, là, quand je t'entends parler, je me dis qu'en fait, le documentaire, il met en lumière un truc auquel on pense pas, c'est la manière dont les parents n'ont pas su réagir et éduquer leur gosse avec ces écrans-là, en fait. Parce que c'est pas une fois que le gamin est accro, en fait, que tu réagis. C'est avant, en fait, pour éviter
Bien sûr,
justement qu'il y ait des trucs.
mais
Donc, il y
tu
a
vas le
ça
voir à
aussi.
la fin,
Ouais,
c'est
excuse-moi.
toutes les solutions que le documentaire peut proposer qu'il ne propose pas. Et ça, c'est encore un autre point noir. En fait, le documentaire ne fait qu'énoncer des faits, et dans sa partie fiction, ça devient même un truc hyper simpliste qui est manichéen et qui prend une certaine lourdeur vers la fin, quoi. Par exemple, à un moment, ils annoncent tout de go que les chutes des gouvernements ces dernières années, les gouvernements qui sont déstabilisés avec les populations, etc., ce serait lié aux réseaux sociaux, aux trolls, à plein de trucs, etc. Alors, on a envie de dire un petit peu quand même, mais c'est tellement simpliste comme explication, c'est tellement une bêtise pas possible. Et du coup, ils font une manifestation, et ils n'hésitent pas à dire que c'est la faute aux réseaux sociaux, etc., devant les gens qui manifestent, devant le Capitole, etc., de trucs. Mais coucou Canon, coucou Trump. Et on voit même le gamin qui se fait embrigader parce qu'il y a trop de réseaux sociaux. Et pourquoi? Parce que la nana, dont il était amoureux, apparemment, il l'avait avec une photo avec un autre mec, etc. On ne sait même pas s'ils sont ensemble, mais du coup, il a vu ça. Il est déçu, déprimé. Et évidemment, bon, c'est pas nouveau. On sait que passer trop de temps sur Facebook ou Twitter, Instagram, on finit par moment déprimé parce qu'on s'imagine, on se crée l'image que les autres, en fait, tout va bien pour leur vie, etc. Alors que c'est faux, c'est des sélections. Les autres sélectionnent leur vie sur Instagram. Ils ne mettent pas tous les pires moments, ils mettent que les bons moments, tout ça. C'est une vitrine publicitaire. C'est que ressortir que l'ego des gens, mais ça, on le sait, ça, c'est, voilà. Donc, le gamin, il s'est fait endoctriner un peu, il regarde des vidéos sur YouTube, tout ça, des gens qui parlent politique, et il va dans une manifestation, etc., et il finit par se faire coffrer par la police avec d'autres manifestants, etc., alors qu'il était juste la première fois qu'il fait une manifestation de sa vie, ça se trouve. Donc, ce qui avait commencé par une bonne idée, de montrer une fiction à côté du docu pour montrer vraiment les à côté, se termine par un message d'une lourdeur apocalyptique qui achève de rendre le documentaire très moyen, alors que ça partait pour être un documentaire intéressant. Et surtout, comme justement Cato l'a soulevé juste avant, le problème c'est que il y a beaucoup de solutions qui existent et le documentaire n'en cherche aucune, ne fait aucun effort pour en pointer des solutions. Alors si, il y a bien par exemple un moment quelqu'un qui est interrogé sur YouTube et qui dit oui. Si YouTube vous propose des recommandations d'artistes, etc., ne le faites pas. Tapez vous-même à chaque fois vos recommandations, etc., les artistes que vous avez en tête, que vous avez envie d'écouter. Ça vous prend plus de temps, ça vous oblige à chercher par vous-même sur Google le truc, mais voilà. De même, les recommandations Spotify, tout ça, etc. En fait, tout le système est pourri depuis déjà une dizaine d'années, et voilà, ça rejoint cette espèce d'aspect qui vont créer des monstres, ils ne les contrôlent plus. Et donc du coup, oui, il y a des solutions qui existent. Cato en a soulevé également le rôle des parents, le rôle de l'éducation, etc. Il y a tout un travail à faire en amont. Mais ça, le documentaire n'en parlera pas. C'est un peu désespérant. Donc du coup, j'aimerais qu'on fasse ce documentaire, mais en fait, je vais juste le dire qui peut être regardable, juste pour justement les aspects techniques, tout ça qui présente avec les gens qui ont travaillé dans le milieu. Mais du coup, pour ce qui est de parler de la protection des libertés individuelles, de la vie privée, etc., quasiment rien. Pour montrer un peu les fonctionnements de la big tech, tous les sujets économiques, etc., enrobés souvent dans un discours pris en fumage, il n'y aura pas grand-chose non plus, alors qu'on sait depuis plus de 10 ans qu'il y a une espèce de bullshit dans les termes techniques, à la fois en anglais, en français, etc. Et c'est à 50% de l'enrobage, je suis désolé. Enfin, voilà, même mon frère qui vit au Québec, à chaque fois, il me dit qu'il est halluciné devant les dérives du langage qui se basent sur les dérives technologiques, etc., de l'informatique depuis une dizaine d'années. On va quand même faire une petite digression. À un moment, dans le film, dans le documentaire, on a une citation de Arthur C. Clarke, qui, grand écrivain de science-fiction, qui rappelait que pour toute civilisation qui est confrontée à une autre civilisation plus avancée, tout ce qui tient de la technologie relève de la magie. Ça, effectivement, il ne faut pas l'oublier. C'est ce côté magique de la technologie. Évidemment, il ne va pas être expliqué dans le documentaire, même pas vulgarisé. Mais il ne faut pas oublier que tout ce qui est tweets, photos, vidéos, etc., c'est un poids. Tout est stocké sur les serveurs de Google, Facebook, etc., etc. Ils n'en parlent pas du tout dans le documentaire. Le plus souvent, tout est crypté, stocké en clair pour en extraire les données aux annonceurs. Mais ça fait des teraoctets de données qui sont stockées dans des entrepôts monstrueux, un peu comme le film de Ker Verne et d'Lépine.
Oui,
Oui, voilà.
ah, j'ai vu le nom. Il est
Moi
sorti
aussi, et voilà.
l'année dernière.
Oui, voilà. Et toute la partie dans son entrepôt, moi, ça m'a fait mourir de rire. Mais voilà, ça part d'une réalité. C'est pas un écran de cinéma. Ce genre d'entrepôt existe réellement. Avec toutes les données qui sont stockées et qui sont des trucs qui sont énergivores, qui sont surchauffés et qui ont forcément un impact instrumental. Même ce qu'on appelle le cloud, on ne sait pas trop quel impact ça a dessus, etc. C'est-à-dire, le documentaire, il y a beaucoup de trucs qui ne parlent pas, ils s'en restent à une vision nette et simple, mais trop simpliste. Et voilà, bon, on va pas trop. Je vais arrêter un peu là sur la charge du truc, quoi. J'ai passé un moment intéressant. Et voilà, j'ai envie de dire, il faut le regarder comme ça, mais ça va pas vous apprendre plein de choses, quoi. C'est plus ça de dire, ça parle d'un bon truc, et ça se barre en vrille, quoi. C'est. Voilà.
Après, quand tu en parles, moi j'ai l'impression d'entendre parler d'un documentaire, c'est genre les réseaux sociaux expliqués aux boomers par les boomers. Donc,
C'est-à-dire, mais c'est un peu ça, quoi. Ils auraient voulu quelque chose qui prenne le risque d'aller plus loin, etc. Comme à une époque, moi ce que j'aimais beaucoup, c'était suivre la chaîne Planète avec mon père, ou la chaîne Historia et Planète, avec beaucoup de documentaires, à la fois sur la guerre, sur plein d'aspects de la société, tout ça. Et c'était toujours des aspects vraiment très fournis. Ou même, je ne peux que citer que Chris Marker, un documentaire de Chris Marker sur l'être humain, quoi, l'histoire humaine, les changements politiques, tout ça. C'est toujours brillant, même très ironique avec le ton, etc. Mais c'est toujours. Tu te prends un gros truc dans la gueule, quoi, chaque fois que tu vois un truc de Chris Marker, quoi. Bon.
Parce que par
Donc
exemple, tu
voilà,
vois, le
voilà.
truc, c'est que, enfin, là, c'est vraiment ce qui me fait dire, ça, c'est que la mode, c'est de dire que c'est la faute aux réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, en fait, il y a 10 ans de ça, en fait, on disait, vous vous rendez pas compte dans les pays qui sont opprimés, les réseaux sociaux, c'est un peu leur seul moyen de communiquer à l'extérieur, dans les autres pays, ce qui se passe vraiment dans leur pays. Et ce qu'on disait il y a 10 ans, c'était ça, de dire que les réseaux sociaux, c'était une porte de communication pour ceux qui ne pouvaient pas. Maintenant que les instances dirigeantes et certains hommes, parce qu'en fait on le voit bien que les hommes politiques vont te dire que c'est la faute aux réseaux sociaux, mais en même temps ils utilisent les réseaux sociaux énormément. Pareil pour les artistes, c'est devenu leur moyen de communiquer aussi auprès du public. Mais en même temps, il y en a
Et
beaucoup qui en
c'est
a.
leur moyen de chier sur leur public aussi, parce que.
Voilà, mais en même temps, ils vont aussi utiliser, enfin, fustiger les réseaux sociaux. Donc, ça donne l'impression que c'était un super outil, c'était perçu comme un super outil. Et puis, le jour où le jour où finalement les plus gros, en fait, les gens les plus célèbres ou les gens les politiques ou les instances se sont rendus compte qu'ils pourraient pas utiliser les réseaux sociaux à leur profit, se rendent compte que enfin criminalisent ça et finalement ne font que focaliser sur tout ce qui est négatif concernant les réseaux sociaux, parce que d'un coup ça devient le mal absolu puisqu'on peut pas l'utiliser comme on veut. Donc moi c'est l'impression que ça me donne ça dans le discours maintenant qui est tenu sur les réseaux sociaux, et j'ai l'impression que voilà, je sais pas si c'est exactement ce qu'on trouve dans le documentaire, mais j'ai l'impression de percevoir ça.
Non, le documentaire ne pointe pas à ce point des coupables, on va
Ouais.
dire, ou même des coupables qui suivent les réseaux sociaux comme coupables, donc du coup tout le monde est coupable, on n'en sort plus. Mais non, non, le documentaire pointe les choses, et moi, comme beaucoup de personnes, visiblement, on regrette qu'il n'y ait aucune solution, et que même moi, ce qui est pendant tout le documentaire, à la fin, j'avais cette fameuse citation culte qui est « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». C'est-à-dire que toute technologie ou toute science, quand elle est mal utilisée, quand elle n'a pas le recul, etc., elle va forcément être une mauvaise science. On voit l'énergie atomique, ça donnait du bon et du mauvais, on l'a bien vu. Là, le problème, c'est que pour tout ce qui est réseaux sociaux, etc., il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de recul. Ce n'est pas le fait d'utiliser ces outils qui est mauvais, c'est le fait qu'il n'y a aucun choix éclairé dans la décision même des ces outils qui ont été imposés par des marketing, etc., qui sont basés sur la psychologie, sur la psychologie humaine. Et nous pouvons proposer les pratiques concurrentes hyper agressives de la part de chacun. Et on est en plus dans une époque où tout s'accélère, on ne laisse plus de temps à l'humain, il faut que la société aille vite, il faut qu'on soit toujours visible, plus, c'est encouragé par les entreprises, tout ça, etc. Si t'as pas LinkedIn, t'es un navet. Si t'as pas TikTok, t'es pas assez jeune. Si t'as pas Instagram, bah, t'as pas assez voyagé, t'as pas assez de photos. Si t'es pas sur Twitter, bah, t'es pas au courant des nouveautés, des news, des trucs, etc., etc., etc. Et c'est ça le problème. Et au travers des choses, si on ne prend pas le temps de proposer des solutions, de les mettre en avant, vraiment de les proposer à tous, c'est-à-dire les mettre en avant par le biais de l'école, par le biais des parents, par le biais des infos, par le biais des amis, par le biais de gens qui passeraient dans les entreprises, dans les écoles, etc., on va à la catastrophe. On est déjà en plein dedans, déjà. Donc voilà.
Ok.
Okay.
Ouais, all right.
C'est très négatif.
Non, on a fait super sérieux aujourd'hui. Au niveau des Oscars, c'est ce soir, vos pronostics? On verra bien avec le recul de Vincent.
On verra bien, là, j'ai pas du tout de...
Parce qu'il y a quand même The Father, qui est quand même le film de... comment il s'appelle? Ah! C'est le français, là, Florian Machin, là.
On en parle beaucoup de lui, c'est le mec qui a fait avec Anthony Hopkins le film là.
Exactement.
Non,
je sais plus, j'ai plus son nom, c'est le mec qui a été prof à Sciences Po là.
L'ancien punk là.
Quoi?
Non, c'est pas lui.
Voilà, Florian Zeller.
Merci. Putain, j'avais un trou, quoi. Enfin, l'air. Et en fait, il a fait, c'est une adaptation de sa pièce. Et qu'il a fait aux États-Unis. Il prépare sa prochaine, son prochain film aux États-Unis aussi. Et puis, puis voilà. Et donc, il y a ça. Il y a Judas and the Black Messiah, Mank, Minari. Minari, je crois qu'il a dû choper de récompenses aussi. Nomadland, que je crois avait gagné au Golden Globe, il me semble, si je me trompe pas. Promising Young Woman, dont j'avais parlé il y a quelques numéros, qui est mon favori. Enfin, moi, j'aime beaucoup, hein, mais après, Sound of Metal, qui a l'air vraiment bien. Moi, je l'ai mis sur ma liste. Et The Trial of the Chicago 7, je pense que là, c'est purement politique parce que le film est pas fou, quoi. Enfin, émotionnellement, ça suscite pas grand chose, quoi. C'est-à-dire que même, tu vois, Judas and the Black Messiah, qui lui aussi, pourrait jouer sur le même tableau, tu vois, de films décrivant des faits qui sont passés aux États-Unis et tout, émotionnellement, ça le fait quand même plus que The Trial of the Chicago 7, quoi. Donc, moi, je suis entre The Black Messiah et Promising Woman, sachant que Sound of Metal a l'air vraiment, vraiment bien avec le Madland. Je l'ai pas vu, mais il a gagné des trucs, donc voilà. Je sais pas. On verra bien, du coup. Mank, toi, tu l'avais vu, Nio?
Lequel?
Mank,
oui, le Fincher, oui, j'avais vu.
Ouais. Et du coup,
je pense pas qu'on le mettra dans les Oscars non plus, quoi.
C'est ça.
C'est une autre technique pour la mise en scène de la photographie, qui est magnifique, mais...
Moi, je le vois mal je le vois très très mal en gagnant le Oscar du meilleur film, mais bon.
Peut-être la BO, parce que la BO de 30 Reznor, c'est comme pour la BO de Soul, que 30 Reznor signe aussi, c'est des super BO de musique, quoi, mais sinon...
Je sais pas si elle est nommée pour la BO. Musique, nanana, attends, ça c'est original.
Meilleure musique.
Si, il est dans meilleure musique, ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Bah écoute, on
Je ne crois que plus soyez pour la musique, en tout cas.
Ouais, sur Judas and the Black Messiah, je me demande si pour sur les acteurs, est-ce qu'ils ont. Ouais, Daniel Kaluuya en second rôle, ouais. Et sur. En leading role, attends, en leading role, ben non, il n'y a pas. Hein. Et ce qui m'étonne, parce qu'en fait, finalement, Lucky Stanfield, en fait, il est très très bien aussi en leading role, en fait. Et je comprends pas pourquoi il n'a pas plus de nominations. En fait. Ça, c'est un truc qui me tilte un peu. Ou alors, c'est que les gens se... Non, mais non, je sais pas. Ou alors, les gens se... Parce qu'il est toujours très bien, en fait. Et les gens, tu sais, c'est le genre de mec, en fait, où les gens s'habituent à ce qu'il soit tout le temps bien. Du coup, on ne voit même plus quand il fait une bonne performance. Donc, c'est chaud, ça doit être ça. Mais bon. Donc, voilà. Bon, bah, bref. Bon, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, malheureusement, c'est un autre Nelson.
Non, ce n'est pas là.
Qui sera loin, qui sera avec ses obligations.
Pour le boulot.
Mais voilà. qui nous retrouvera peut-être dans 2 semaines. Voilà.
Peut-être, oui.
2 semaines.
2 semaines. On ne dira pas à penser qu'on a référence, ils le diront dans les commentaires.
Bon, bah, on souhaite tous une bonne semaine à venir. Ciao, ciao.
Bonne semaine.
Tous les gens.
Ciao.